RFI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 4h.
Sous mes applaudissements, c'est Willy vient déjeuner chez vous, numéro 968.
Ça filoche.
Mais ça filoche, ça ne s'arrêtera donc jamais. Bonjour la tribu.
Bonjour.
Alors, qui est là aujourd'hui? Voyons, Nicolas Malabeuf, notre enfant de la télé. Bonjour mon bon Nicolas.
Bonjour Willy, bonjour tout le monde.
Et Fabien Imo, notre geek. Bonjour mon Fabinou.
Bonjour Willy, bonjour à tous.
Et bienvenue ici. Voilà, c'est reparti pour un nouveau numéro de votre grand talk show du week-end. Toute la France réunie pour parler d'ici et de là-bas, car où que vous soyez, vous êtes ici et puis c'est tout. Et puis alors moi aujourd'hui, je suis ici, en direct de ici Provence, alors, à Aix-en-Provence.
Vous allez toutes les faire en fait.
Je vais toutes les faire.
En fait, vous êtes en vacances.
Vous êtes en vacances en fait. Moins je veux être avec vous et mieux je me porte.
Non, mais c'est
je pense que vous l'avez bien compris. Mais non, mais j'adore aller voir nos amis à droite à gauche. Et plus c'est au soleil, près de la mer, et mieux je me porte. Jusqu'à 13h, ça ne va pas nous empêcher de faire comme d'hab. On va parler actu, tendance du moment. Notez bien les dossiers du jour. Dans un instant, les jeunes, nos enfants, certains, pas tous, hein, mais ne vont pas bien. Depuis Covid, la santé mentale des plus jeunes serait préoccupante. Pourquoi? Que faire? La réponse dans un instant avec notre invité. Pour réagir, 0810 055 056. Vous savez qu'on fait cette émission ensemble, alors je vous attends en stand, rappelez-nous. Hein. Et à 12h30, écoutez bien, jusqu'au 17 juillet, on travaille pour payer nos impôts. En fait, d'après les calculs d'un cabinet spécialisé, comme 54% de nos revenus bruts partent en impôts, et bien jusqu'au 17 juillet, ils ont fait des calculs, et bien on ne bosse que pour, enfin pas pour gagner de l'argent, mais pour payer les services publics et la protection sociale. Eh bien, sommes-nous proches d'un ras-le-bol fiscal ? 6 Français sur 10 ne sont pas satisfaits des services publics. Eh bien, je vous pose la question. Est-ce que vous, vous êtes content de vos services publics ? Est-ce que vous êtes heureux de payer une blinde d'impôts ? Vous aimeriez en payer encore plus ? 0810 055 056. Appelez-nous. On fait l'émission ensemble. Ici, c'est la famille. Hein. Et vous repartez avec aujourd'hui, mon Nicolas.
Eh bien, à l'approche des vacances, on vous offre vos vacances. Alors, pas n'importe où. Ce sont les campings Sunelia. C'est des campings haut de gamme. Ça rigole pas.
Ah, ouais, non,
et vous pourrez partir à 4 pendant une semaine.
Pas mal.
Bah voilà. Donc, appelez vite. 0810 055 056. On vous attend. Un mot du groupe Facebook.
Mais oui, on
Fabien.
On fait l'émission aussi sur Internet, sur Facebook. Youpi la vie avec Willy Rovelli. Ça, c'est pour nous retrouver. On poste des photos, des youpi. Nous avons eu un message d'Alexandre. Il a fait le triathlon là, de Deauville aujourd'hui. Ah. Il a mis 3h05.
C'est bien.
Donc,
fignon,
bravo.
Extrême,
bravo,
hein.
Alexandre. Et Agnès Lefebvre. Youpi, je
fais 110 minutes.
Ah oui, il est bon, lui. Youpi, je viens de terminer un ensemble sur mesure pour un bébé tout en tricot.
Trop chaud.
Donc, bravo Agnès et merci pour la photo.
Ça d'ailleurs, me réchauffera.
Bah, d'ailleurs, c'est votre taille, je crois, William. Agnès, un peu nous l'envoyer.
Merci beaucoup. On a tout dit.
On a tout dit.
Alors, démarrons. Et ouvrons notre premier dossier. Bonjour Marie-Estelle Dupont.
Bonjour Willy.
Bienvenue ici. Vous êtes psychologue, clinicienne et auteure de Être parent en temps de crise chez Guy Trédaniel. Alors Marie-Estelle, je me souviens avoir lu un article de vous, une interview avec vous, ça devait être dans le Figaro, il y a 3-4 ans, peut-être en 2021, où vous disiez, on va avoir une génération de jeunes déprimés, peut-être même violent. Quand on voit que là, il n'y a pas une semaine, là, depuis quelques temps, où il n'y a pas un jeune qui se fait avoir avec un couteau dans le cartable, ou alors bon, heureusement, ça finit pas toujours en drame, hein. Mais est-ce que là, on peut dire, bah oui, ça y est, Marie-Estelle, on y est, hein, ce que vous disiez, on est pile dedans?
Oui, malheureusement, en fait, nous, les cliniciens, on voyait dès février une grosse vague pédopsychiatrique avec un infléchissement sévère de la santé mentale des mineurs qui était déjà dégradée. Hein, Claire Hédon, qui était la rapporteuse des droits de l'enfant, l'avait signalé dès 2015. Et donc moi, je voyais bien que certains prendraient le chemin de la dépression, c'est-à-dire du retournement contre soi, de l'agressivité, et puis d'autres de la violence. Alors, il y a plusieurs motifs. Il est que les mesures qu'on a prises pendant le Covid n'étaient pas adaptées à des individus. Ça, on le sait maintenant, toutes les études statistiques le montrent, hein, le confinement, etc., sur des cerveaux en pleine maturation qui sont en train de développer leur identité, leur relation aux autres et leurs compétences sociales. Les confinements, les couvre-feux, les privations d'activités sportives, etc., c'était complètement inapproprié. Donc, chez les tout-petits, il y a des retards de langage, mais qui dit retard de langage dit difficulté à gérer ses pulsions et donc dans la cour de l'école plus d'agressivité très jeune, et chez les ados et les étudiants la même chose. Donc ça, c'est un impact retard des années Covid, mais c'est pas la seule cause. Je vous laisse me poser la question que vous vouliez me poser peut-être.
Allez-y Marie, parce que moi je vous écouterai pendant des heures, comme ça je bosse moins, donc c'est très bien. Allez-y. C'est très intéressant.
Faut comprendre que c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est multifactoriel et c'est le résultat des 40 dernières années, des choix de société qu'on a fait depuis 40 ans. Alors il y a plusieurs facteurs. Là, il faut pas oublier ce que disait Victor Hugo, fermez une école, vous ouvrez une prison. Moi, je crois que la baisse du niveau de l'instruction, on voit bien le classement PISA qui est désastreux en français, en grammaire, en syntaxe, en maths, etc. La baisse de l'instruction, ça veut dire qu'il y a moins d'outils intellectuels, le stock de vocabulaire est plus étroit, et
Vous le dites d'ailleurs, vous le dites, je reçois parfois des jeunes qui arrivent même plus à exprimer, à s'exprimer, à dire pourquoi pourquoi ils vont mal.
Oui, c'est-à-dire que nous, on travaille à mettre des mots pour reconnecter l'individu à ce qu'il ressent, à ce qu'il éprouve, à ce qu'il est, et éprouver ses limites, éprouver ses douleurs devient quelque chose qui est difficile à nommer. Et quand vous ne pouvez pas nommer quelque chose, quelque part, ça reste un peu dénié. Et tout ce qui est dénié risque d'être agi. C'est-à-dire, si je ne peux pas dire « je me sens déprimé », eh ben, potentiellement, je vais me scarifier, je vais me priver de nourriture, c'est-à-dire je vais être dans l'agir au lieu d'être dans la pensée. Donc, il y a la baisse du niveau d'instruction, la baisse du niveau de vocabulaire, il y a le Covid, et puis il y a évidemment ce techno-optimisme des années 2000. On a pensé que la virtualisation de l'existence...
Exactement, voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Effectivement, est-ce qu'on n'a pas un peu mal évalué l'arrivée des réseaux sociaux il y a quelques années?
C'est-à-dire que je crois que les écrans et les réseaux sociaux, l'arbre qui cache la forêt, et la forêt, c'est qu'on a eu une naïveté immense vis-à-vis de la technologie. Ouais. On a cru que la technologie allait nous sauver de la violence, de l'idéologie, etc., etc., et que nos enfants seraient plus à l'abri derrière un écran que dans la rue. Sauf que dans la rue, ils sont obligés de se limiter, de faire attention à l'autre, d'apprendre à interagir, de mettre leur ego de côté, de supporter la compétition sportive, etc. Et derrière un écran, l'anonymat permet aussi une impulsivité beaucoup plus grande de la violence. On voit bien les proportions que prennent le harcèlement en ligne. On a pêché par optimisme il y a 20 ans avec l'arrivée de la perturbation de l'existence.
Et Marie-Estelle, vous dites, pour continuer sur les écrans, exposer, parce qu'on en a encore parlé cette semaine là avec la ministre de la Santé, je crois, qui disait qui voulait interdire les écrans aux petits enfants là. Vous dites exposer un enfant de moins de 3 ans devant un écran, c'est criminel.
Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau neurobiologique, au niveau du développement du cerveau, l'intelligence ne peut se développer que par l'action. C'est d'abord un développement psychomoteur chez l'enfant. Un petit garçon, une petite fille qui peut pas courir, sauter, bouger, va moins se développer. D'accord? Donc, plus il passe de temps immobile, sédentaire, derrière un écran, moins ils dorment bien, plus ils deviennent obèses, plus ils deviennent agressifs, plus ils sont hypnotisés, plus ils sont coupés de leurs 5 sens, puis moins ils développent des capacités qui leur donnent confiance en eux. Et quand vous n'avez pas confiance en vous, c'est très dur d'être avec les autres. Parce que vous vous sentez impuissant, vous vous sentez incapable. Donc, qu'est-ce que vous faites? Soit vous vous repliez sur vous-même, ce qui est une tendance extraordinairement développée, notamment au Japon et aux États-Unis, soit vous devenez violent. Et c'est exactement ce qu'on observe. Et puis, les écrans, ça fait des systèmes, ce qu'on appelle les systèmes de récompense très puissants. C'est-à-dire qu'avec un minimum d'effort, il suffit de passer l'index sur l'écran, vous avez un maximum de stimulation et de nouveauté. Donc, quand après, votre parent vous dit « va jouer au tennis, va faire quelque chose à l'extérieur, va dessiner », la récompense, elle demande de la patience et de l'effort, et donc il y a beaucoup moins de sécrétion de dopamine, donc ils deviennent addicts. Et ça, c'est très dangereux.
Bon, beaucoup. Merci infiniment, Marie-Estelle Dupont. C'est toujours très passionnant avec vous. Malheureusement, le temps file. Mais si vous voulez vous intéresser sur le sujet, vraiment, c'est le moment. Hein. Votre livre s'appelle Être parent en temps de crise. Un livre plus que nécessaire en ce moment. Merci infiniment, Marie-Estelle Dupont,
d'avoir pris plein de conseils.
Et vous donnez beaucoup de conseils. Merci beaucoup. Hein. Passez un bon week-end. Et vous, tiens, qu'en pensez-vous de tout ça? 0810 055 056. Appelez-nous. Voyez, on parle de tout. Hein. On parle de tous les sujets et on vous attend. Parce que j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus. Fabien, bien sûr. Oui. Toi, tu vas nous parler de quoi dans un instant là maintenant?
Je vous résume l'actu web de la semaine avec une application pour inviter des inconnus à votre mariage. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir et c'est une application française. Je vous résume tout dans un instant.
Et je trouve ça formidable.
Je m'en doutais.
C'est-à-dire qu'on invite des gens qu'on connaît pas.
Voilà, c'est ça. Mais en plus, ils payent. Je vous explique tout, c'est génial.
Mais je veux dire, est-ce que la mariée ou le mari, on le connaît quand même?
Non. Si vous aimez les mariages, hop, vous pouvez aller en profiter.
Si j'épouse quelqu'un, est-ce que je connais c'est quelqu'un ou c'est quelqu'une?
Non.
Oui, quand même.
Non.
Oh là là, je ne comprends rien du tout.
Moi non plus.
Bon, ça m'a l'air passionnant. Alors, on va écouter vite les Wings avec Good Night Tonight. Merci d'être avec nous.
Good night to love.
C'est bon les wings, chicken wings, j'adore. Ah oui. Avec Good Night Tonight. Vous voyez comment on s'y connaît en musique.
Voilà, le niveau.
Wings. On est quand même, on a un niveau qui est très très bas. Plus les jours passent,
et
voyez,
plus
on creuse notre tombe. Avec les Good Night Tonight. Voilà, ça c'était le titre. Et maintenant Fabien Imo, notre geek. Alors, mon Fabien.
Il est l'heure de la mise à jour. Voici toute l'actu web qui m'a fait marrer cette semaine. On démarre avec un mariage original. Un couple originaire de Jouigné-sur-Sarthe s'est marié sur le thème d'Astérix et Obélix. Pour l'occasion, tout le monde était déguisé. Monsieur le maire était grimé en Abra Raccourcix. Le marié Pascal s'est transformé en Pascalix. Et Sylvie la mariée en Sylvila. Alors écoutez ce que ça donne un mariage gaulois.
Nous sommes rassemblés aujourd'hui, non pas pour faire la guerre contre Rome, mais pour unir deux cœurs Pascalix. Promets-tu de faire tourner les roues de notre vie commune sans caler au premier obstacle? Je vous déclare unis par le lien sacré du mariage.
Le mariage hors du commun. Je souhaite ça à tout le monde.
Ah oui, le mariage s'est terminé par un bon festin gaulois, un poulain de sanglier, sans oublier la potion magique. Tout le monde était déguisé, il y avait même le druide. Voilà, les vidéos font le tour sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une bonne idée ce mariage au pays d'Astérix. Et pour la nuit de noces, la jeune mariée aurait crié « Vive la Gaule !» Ah, on reste dans le thème du mariage. Il y a quelques semaines est sortie une toute nouvelle application, Invitind. Vous connaissez Invitind? Ça s'écrit I-N-V-I-T-I-N. Invitind permet aux couples de vendre des places à des inconnus pour qu'ils viennent assister à leur mariage, pour les aider en fait à financer leur événement. C'est complètement dingue cette idée. Si vous avez décidé de vous marier voilà, dans quelques mois ou l'année prochaine et que vous avez besoin d'un peu d'argent pour financer le plus beau jour de votre vie, eh bien grâce à cette application, vous pouvez mettre en vente des places pour que des inconnus voilà, viennent assister à votre mariage.
Bah, pourquoi pas?
Bah oui, bah, les invités doivent débourser 110 euros minimum et ça peut monter en fonction du thème, hein, ça peut monter entre 150 et 200 euros. Eh bien cette idée complètement dingue fonctionne, parce que je me suis connecté sur Invitind et si vous souhaitez, bien vous pouvez assister au mariage de Chad et Elisa le 20 juillet 2026. Ils ont déjà 8 réservations, donc comme quoi ça séduit. Ou sinon, il y a Jade et Jacques qui vous proposent d'assister à leur mariage le 18 mai prochain. Ils n'ont que 2 réservations pour le moment. Donc voilà, si vous aimez les mariages, les belles fêtes et les tontons bourrés en fin de soirée qui veulent absolument faire la chenille, connectez-vous sur Invitind.
Je connais.
Ça vous dit quelque chose,
oui. Ça me dit vaguement quelque chose, oui.
Et bien, on termine avec une info
des chiffres
pour
et des lettres.
Tous les fans de Fort Boyard.
Ah oui.
Depuis quelques jours, là, la boutique officielle de l'émission est en ligne. Fortboyard-boutique.com, vous ne le saviez pas?
Ah ben, je ne savais même pas. qu'est-ce qu'on vend?
Et bien, sur ce site, vous pouvez commander mug, tote bag, casquette, marinière à l'effigie de Fort Boyard. Et pour l'occasion, le père Foura a posté une vidéo sur YouTube.
Ah, enfin, il est en ligne.
Qu'est-ce qui est en ligne, père Foura?
Je viens à l'instant de mettre en ligne la boutique Fort Boyard.
La boutique Fort Boyard?
Oui, oui. C'est une boutique dans laquelle on peut trouver des mugs comme celui-ci et aussi des casquettes comme celle-ci.
Mais c'est génial, père Foura. Est-ce que je peux l'avoir, la casquette?
Eh bien entendu, Passepartout. Tenez.
Oh, merci, père Foura.
La casquette, c'est 5 Boyard.
5 Boyard,
rassurez-vous, la boutique en ligne Fort Boyard accepte aussi les euros.
Bonne nouvelle. Et il y a même un puzzle avec votre tête, Willy.
Un puzzle avec ma tête? C'est quoi? C'est
Fort Mappins? C'est Fort Mappins, voilà. Voilà, je sais ce que vous dites, c'est fort. Tout. En même temps, c'est Fort Boyard.
C'est Fort Boyard. Bon, allez me demander, je vous aurais rapporté gratuitement des petites merdouilles. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. C'est
et
dommage.
Il y a des figurines passe-partout, mais à taille réelle, du coup.
les insolents. Ça démarre le 5 juillet, Fort Boyard.
Oui,
car je sais que vous êtes très nombreux à être fans de cette émission. Je crois, vous savez combien? 35, 36 ans,
et
je crois,
36e saison.
La 36e saison. Merci, mon bon Fabinou. Passons un jingle, car j'y tiens.
Ici, à midi, avec toute sa tribu,
Willy vient déjeuner chez vous.
Bonjour Evelyne. Ça va Evelyne?
Bonjour Willy, bonjour à toutes les
filles. Comment vas-tu Evelyne?
Je vais très bien, j'ai la chance d'être au frais dans un gîte, dans le Revermont,
Dans
le bois de lin.
D'accord, tu n'es pas dans un...
Un village magnifique en pierre blanche, ça c'est superbe.
D'accord, tu n'es pas dans un congélateur, tu es à l'extérieur. Très bien.
Non, j'ai la chance de pouvoir me faire à manger en dehors du congélateur.
Bah dis donc, hein. Bon, très bien, Evelyne. Je crois que tu voulais réagir sur notre deuxième dossier sur les impôts. Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu trouves qu'on en paye assez ou pas assez? Est-ce que tu voudrais en payer plus?
Écoute, si j'en payais plus, ça veut dire que j'aurais les revenus en conséquence. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui.
Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été non imposable. parce que c'est vrai que je gagnais pas suffisamment. Et maintenant, ça fait quelques années que j'ai recommencé à en payer. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'avec toutes les choses dont on bénéficie, l'école gratuite, l'infrastructure et toutes les choses, faut se dire quand même qu'on paye quand même pas beaucoup par rapport à certains pays. Et que nos enfants ont la chance d'avoir une école gratuite et qui est toute la journée, qui est quand même très bien. Et puis tout le reste, quoi. Donc finalement, il faut arrêter d'être franchouillard à se plaindre tout le temps. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose en face, quoi. Et que c'est une bonne chose de participer.
Voilà. Et sur le sondage où il y a 6 Français sur 10 qui trouvent que les services publics sont pas ouf, toi, tu en penses quoi?
Est-ce que moi, je connais pas mal le service public, parce que mon papa y a travaillé, mon ex-mari également, et puis j'ai des amis qui sont instituteurs ou des choses qui travaillent quand même pour des collectivités. Et quelque part, c'est vrai qu'à part la critique, on connaît pas grand-chose de leur travail. Ouais. Et donc là, moi, mon papa et mon ex-mari, c'est travailler sur les routes, la DDT, des DDE, pont des chaussées, mon papa, et qui travaille quand même dans des conditions. Les gens sont contents le matin d'avoir trouvé une route déneigée.
Eh oui.
Ils s'imaginent pas qu'il y a un patrouilleur à 3h du matin qui fait le
qui s'est levé et qui a fait le boulot.
Qui déclenche les équipes au besoin. Mmh. Et voilà. Et donc, en fait, c'est sûr, quand on les voit au bord de la route, on dit c'est des glandeurs, ils sont appuyés sur la pelle. Mais en fait, il faut voir la réalité derrière. Quand même.
Exactement. Bravo Evelyne. Merci beaucoup. Voilà, c'est un son de cloche très intéressant. Evelyne, merci beaucoup d'être passée nous voir. Et je suis ravie que tu sois ravie de payer plein d'impôts, tu sais. Moi qui suis extrêmement riche, j'en paye beaucoup. Et ça ne me gêne pas, Evelyne, tu sais. Tu repars avec quoi, dis-moi, Nicolas.
Evelyne, si tu es fan de bungalow, ce cadeau est pour toi. Une semaine dans un camping Sunelia pour 4 personnes. Ça, c'est
Tu verras, camping de luxe. Merci Evelyne, on t'embrasse fort, le tirage est dans une demi-heure, donc peut-être qu'on va te rappeler. Merci beaucoup Evelyne. Vous savez que j'aime bien vous présenter quelqu'un de pas banal, parce qu'on aime bien dans cette émission vous présenter des gens
pas banaux.
Et c'est juste après les jingles. Là, il est là, regarde.
Ici,
il est là.
À midi, avec toute sa tribu,
Willy vient déjeuner chez vous.
Et voilà, bim, comme promis, place à la personne pas banale du dimanche. Bonjour Antoine Stein.
Bonjour.
Bienvenue ici, mon cher Antoine. Je crois que j'ai mal prononcé ton nom de famille, ou c'est à peu près ça, dis-moi. C'est Antoine comment?
Non, c'est à peu près ça, c'est bien Antoine Stein.
C'est à peu près ça, c'est bien. Alors, mon cher Antoine, tu as 18 ans, tu es originaire de Saint-Symphorien. C'est où Saint-Symphorien?
C'est en Normandie, donc en Normandie. Dans l'Eure.
Dans l'Eure, très bien. Et donc, à 18 ans, tu viens de publier quoi, là, il y a quelques semaines à peine?
Alors, je viens de publier mon premier recueil de poèmes.
Voilà, un recueil. Non, donc, t'as vu, c'est bien, c'est un recueil de poésie. Donc, c'est rare que des jeunes écrivent de la poésie.
C'est peu commun. Après, je sais que la poésie revient un peu dans la jeunesse, mais c'est vrai que c'est un peu moins commun quand même.
Bah oui, parce que je crois qu'en plus, t'es tombé dedans très tôt. Hein. Très, très tôt, t'as commencé à écrire des vers. Alors que Fabien, très tôt, a commencé à
boire des verres, c'est pas pareil.
Mais donc toi, tu les écris. Toi, ça a commencé à quel âge?
C'est ça. Alors, mes tout premiers poèmes, j'ai dû les écrire vers l'âge de 10 ans.
Waouh. Voilà, te rends compte. Donc. C'est vachement bien. Alors, il y a l'une de tes profs qui s'appelle Sophie Lamblois, ta prof de lettres.
C'est ça.
Qui t'a encouragée. Et donc, un jour, elle t'a dit, tu devrais essayer d'envoyer tes poèmes à des maisons d'édition. Et là, bim, tu l'as fait. Et puis, ça l'a fait, quoi. Ça a marché. Comment elle s'appelle, cette maison d'édition?
C'est les éditions Baudelaire.
Ouais.
Et donc, c'est exactement ça. J'ai écrit mes poèmes dans mon recueil de mes 15 à 17 ans.
Ouais.
Et je les faisais lire à ma professeure de français.
Voilà.
Et puis, un jour, ma professeure de français m'a dit de les publier.
Wow. Et c'est très important, une prof de français. Voilà, parce que moi aussi, j'ai eu une prof de français qui m'a un peu sauvé la vie quand j'étais en cinquième. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait, mon cher Antoine?
Oui.
Alors, comment ça s'appelle?
Je peux lire un petit poème.
Vas-y.
Alors, c'est Le Bonheur.
Le Bonheur. Ah, ça, c'est bien.
Donc, chose difficile à atteindre, il est inestimable. Il faut connaître la vraie souffrance et avoir été dans l'insouciance pour savoir qu'il est finalement valable. Mais comment puis-je l'atteindre avant de m'éteindre? Comment savoir si j'ai vécu assez de malheurs pour ne plus être chaque jour en pleurs? Je ne veux plus jamais me plaindre de tous mes malheurs qui me font tant de douleurs. Je suis si perdu, j'ai lancé un appel, mais personne ne m'a entendu. Alors je reste là à écrire, Les verres m'empêchent de partir. Finalement, j'ai un petit sourire, car je pense avoir trouvé mon bonheur. Laisser s'envoler mes pensées en de jolis vers. Et enfin, je comprends ce qu'est le bonheur. C'est de voir attendre la bonne heure.
Bravo, bravo.
Voilà, tu ça, vois, c'est voilà, beau. Un petit peu de poésie.
Ah bah oui, ça fait pas de mal dans cette émission.
Mal, ah oui. Où est-ce que tu vas puiser toute ton inspiration, Antoine ?
Bah, souvent, c'est le soir quand bah, j'arrive pas à dormir. Et puis, les vers viennent, les rimes. Et donc, je rallume la lumière et puis j'écris.
Et puis t'écris. Voilà. Tu veux en faire ta vie ? Tu veux continuer à écrire ? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard quand tu seras grand ?
Bah, du coup, cette année, donc en septembre, je pars en prépa littéraire.
Ouais.
Et donc, j'aimerais bien en faire ma vie. Donc, faire des études littéraires. Donc, voilà.
On croise les doigts pour toi, Antoine. Est-ce que c'était ta première interview sur une grande radio mondiale ?
Oui, c'était la toute première.
Donc tu te souviendras de nous hein, quand tu seras une star. Hein. Tu fais pas genre. Hein. Tu te diras, voilà, le premier qui m'a posé des questions intellectuelles, c'était Willy Rovelli. Tu n'oublieras pas ce moment qui restera gravé à vie chez toi, j'en suis sûre. Bravo Antoine, merci beaucoup. Antoine, il a 18 ans
et l'invitation.
Son recueil de 20 poésies s'appelle, avec beaucoup de plaisir, s'appelle 9 roses blanches aux éditions Baudelaire. Bravo. Voilà mes amis, il s'appelle Antoine Stein. Très bien.
taquet. Votre jeu de midi, c'est ici, avec Éric Bastien et Valérie Damidot.
Tu as un animal de compagnie qui est une crevette. Et alors la crevette s'appelle Cassandra, comme ta voisine. Pourquoi ?
Ici à midi, on est au taquet.
Ici, chaque week-end,
Willy vient déjeuner chez vous.
Merci d'être ici, mes amis, en direct jusqu'à 13h partout en France pour votre grand talk show du dimanche. Willy vient déjeuner chez vous. Alors, c'est comme la messe du dimanche.
Mais pas pareil.
Ah, mais sinon, c'est la même chose. Dans un instant, on va parler des impôts et votre tribu est là. Lui, c'est le seul en France qui regrette la fin de la redevance. Notre enfant de la télé, Nicolas Malabeuf. Et lui, il est pour le prélèvement à la source, surtout si cette source, c'est du whisky. Notre geek, Fabien Aimé. Et bien sûr, sans vous, pas d'émission, mes amis. Vous réagissez sur le groupe Facebook. Comment il s'appelle
Youpi la vie avec Willy Rovelli, c'est complètement gratuit. On partage nos Youpi. Il y a Florent Dupuis qui a écrit Youpi hier, j'ai joué avec mon groupe de musique dans mon village situé dans le Var. Ambiance au top, bon enfant. Donc merci Florent. Joël Data a posté hier soir dans notre Berry, belle représentation du cirque Bidon venu de Saint-Sever.
Bidon.
Elle a marqué.
Cirque Bidon.
C'est un cirque hors du commun. Elle a écrit, puis elle a posté des petites photos. Donc merci à Joël Data et continuez à réagir sur Facebook. C'est complètement gratuit. Ça s'appelle Youpi la vie avec Willy Rovelli.
Merci beaucoup. Et puis, vous réagissez aussi sur les dossiers du jour. Les jeunes ne vont pas bien. C'est la catégorie de la population la plus déprimée, en ce moment. Qu'en pensez-vous si vous avez des jeunes à la maison? Comment ça se passe avec vos enfants? Venez nous le dire. Et dans un instant, attention au ras-le-bol fiscal. Le gouvernement cherche 40 milliards. Est-ce qu'ils ne vont pas encore augmenter nos impôts? Tiens, comme ça, il y aura des jeunes déprimés et des vieux déprimés aussi. Est-ce qu'on paye trop d'impôts? 6 Français sur 10 ne sont pas contents des services publics. Et vous, qu'en pensez-vous? 0810 055 056, on fait l'émission ensemble. Vous venez, vous dites ce que vous voulez et vous repartez avec votre sélection pour quoi ?
Une semaine en camping grâce au camping Sunelia pour 4 personnes. Oh là là. C'est très haut de gamme.
Ah oui, c'est des campings là.
Tirage au sort dans 27 minutes.
Et 27 minutes, je suis sûr.
Oui, c'est précis.
Sûr. Très bien. Alors appelez-nous, pitié. Oui.
Mais avant, à la demi, on retrouve un homme qui résume l'actu comme personne. Ah oui. C'est notre Jean-Claude Narcy à nous, mais en meilleure forme quand même. Willy, il est l'heure de mettre les points sur les i.
Ici, Willy Rovelli.
Mets les points sur les i.
Allez, ce n'est pas pu écouter le journal à pile. Il est pile l'heure de refaire le journal. Voici les à peu près titres de l'actualité. Tout de suite, les à peu près titres de l'actualité avec les cartables Tans. Et on commence avec ses frappes américaines. C'est après son golf que Donald Trump a décidé de bombarder l'Iran. Oui, en fait, il lui manquait quelques trous pour terminer sa partie. Tiens, à propos de trous, cette bonne nouvelle, le chanteur Renaud a déclaré qu'il avait déjà 3 chansons en chantier pour son prochain album. Et vu son état, c'est la première fois qu'un chanteur prépare un album posthume de son vivant. 3 chansons en chantier, le prochain album de Renaud, c'est le projet d'autoroute A69. On n'est pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Déclaration de Stéphanie de Monaco. J'ai 60 ans et j'ai décidé de prendre ma retraite. Ah bah c'est bien. Mais alors sa retraite de quoi? Alors peut-être que la retraite chez les princes et princesses, c'est le moment où ils commencent à bosser. Voilà, parce que nous on dit j'arrête de travailler, je pars en retraite. Mais comme eux ils bossent jamais, peut-être qu'ils se disent j'arrête de rien foutre et je pars en retraite bosser. Je sais pas. Je sais pas. Les sites porn et Pornhub à nouveau accessibles en France. Voilà, pour fêter ça, la Tour Eiffel sera éclairée ce soir aux couleurs du sopalin. Canicule, attention, si vous avez l'un de ces symptômes, maux de tête, vertige, fatigue anormale ou espoir que François Hollande soit président en 2027, alors vite, appelez le 15. Débat à l'Assemblée sur la fast fashion. Alors la fast fashion, on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est de mauvaise qualité, ça ne dure pas longtemps. Un peu comme un gouvernement d'Emmanuel Macron. La fast fashion qui est accusée d'abuser des enfants, ce qui fait un point commun avec Betaram. Sauf que sur betaram.com, le seul truc qu'on peut acheter, ce n'est pas des vêtements, c'est le silence de François Bayrou. Après l'Everest, le youtubeur Inoxtag envisage de gravir le ventre de François Bayrou sans assistance ni oxygène. Là, il n'y arrivera jamais. Un enfant de 7 ans retrouvé en possession d'un couteau à steak dans une école de Mulhouse. Nos enfants deviennent donc plus violents à cause de TikTok et à cause de Charal. Heureusement, il a été arrêté à temps avant que ça ne finisse à l'hôpital. En Inde, une voyageuse qui devait prendre l'avion qui s'est écrasé cette semaine a raté son vol à cause des embouteillages. Bravo Hidalgo, merci. Bravo. Je suis fière d'elle encore. Interpellation d'un homme qui a tenté de privatiser Disneyland Paris pour mettre en scène une fête de mariage avec une enfant de 9 ans. Mais enfin, on peut pas lui foutre la paix à Jean-Luc Lahaye, merde. Enfin, la question du jour. Après 20 ans de mariage, le chanteur Maître Gims divorce avec sa femme. Est-ce qu'on peut dire alors qu'entre eux deux, c'est rappé comme jamais? Eh ben, vous avez 2 heures. Allez, heureusement, dans 192 jours, c'est fini, 2025.
Voilà. Bravo.
Oh, ben, ça passe, hein. Mais Maître Gims, allez, c'est fini, là, ça. Ah, il divorce, hein. Là, c'est fou, ça. On s'en fout, c'est vrai. J'étais en train de vous lire. Je crois que tout le monde s'en fout. mes amis, allez, dans un instant, on va se faire une petite déclaration.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Voilà, déclaration d'impôt, bien sûr. Mais d'abord, tiens, écoutez ça, en avant la musique.
Ah oui, ça c'est l'été.
Ah, aussi, Master King.
Débrouillez-vous.
Master KJ.
Ah bon, voilà. Sans bien que j'avais écrit n'importe quoi. J'en ai marre. Même lire, je ne sais pas. Voici Jérusalem sur votre radio ici.
Jérusalem, Ikayalami. Ilondolose. Shilana Jerusalem ikayalami ilo noloze uhambenami zungangishilana dauyami aikolana buso wami aukolana ilo noloze.
Très bien, avec Jérusalem. Est-ce que vous aimez les jingles?
Énormément.
Oui. Bah, tendez bien votre joue, il est là, tiens, regarde.
Ici, chaque week-end,
Willy vient déjeuner chez vous.
Je suis en direct des locaux de Ici Provence, à Aix-en-Provence. Merci pour les... Qu'est-ce qu'ils sont gentils ici, hein. J'adore venir ici et voilà, parce que j'aime bien voir nos petits camarades à droite à gauche. On a la chance, c'est un grand réseau, hein, le radio ici. On a 44 locales un petit peu partout, donc de temps en temps, venir à votre rencontre, ça me fait plaisir. Et on va ouvrir maintenant notre nouveau dossier. Bonjour Noam Léandri.
Bonjour.
Bienvenue ici. Alors, vous êtes le cofondateur de l'association Le Sens du Service Public. Il y a quelques semaines déjà, vous aviez participé à une enquête qui révélait que 6 Français sur 10 n'étaient pas satisfaits des services publics. Cette semaine, une autre enquête, rien à voir avec vous, mais nous dit que jusqu'au 17 juillet, on travaille en fait juste pour payer ses impôts. Alors déjà, tiens, on va revenir sur cette histoire de ne pas être satisfait des services publics. Il vient d'où le problème, à votre avis, mon cher Noam ?
Eh bien, le problème, c'est l'accès aux services publics, hein, avec la dématérialisation des services publics. De plus en plus de personnes ont du mal à accéder, à faire valoir leurs droits. Et donc, ça fait une forme de ras-le-bol administratif, hein. On sait plus trop où donner de la tête.
C'est ça.
Donc ça, on le voit. Et plus on est loin des services publics, plus ça devient compliqué de pouvoir avoir quelqu'un qui vous répond. Alors, nous, on avait identifié que, déjà, un standard téléphonique, ça serait une première étape pour pouvoir répondre aux problèmes du quotidien.
C'est ça. Au moins quelqu'un qui est au bout. Voilà. Au moins un humain, un vrai humain avec qui on peut parler, quoi.
Exactement, parce qu'aujourd'hui, alors service public, ça veut tout et rien dire aussi, hein, parce que les personnes leur demandent est-ce qu'un médecin, ça devrait être un service public, et ils disent oui. Alors vous savez qu'ils sont libéraux pour la plupart dans la médecine générale, mais les pharmacies, ça pourrait être un service public. Enfin, il y a aussi un besoin peut-être de redonner un peu plus de lettres de noblesse à tout ça.
Voilà, parce que Noam, dans l'enquête, les gens disaient pas on veut pas de service public. Au contraire, ils y tiennent. Hein, ils sont pas satisfaits du fonctionnement, c'est ça. Ouais. Hein.
Exactement, voilà. Exactement. Et plus on est loin, et plus c'est compliqué. Et donc c'est ça qui crée en général un problème, le fait que ça soit dématérialisé. Ce que veulent les gens, c'est un contact humain qui peut aider à répondre à leurs problèmes. Et donc c'est ça vraiment qui est demandé. Et les gens, ils sont attachés au service public en France. C'est pour
exactement.
Ça qu'on a créé ce think tank. On a besoin de ces agents qui rendent des services publics.
Voilà, et tout à l'heure, on a eu une première auditrice, Evelyne, qui nous disait « Non, mais c'est normal de payer des impôts, parce qu'on a de la chance en France. » Écoutez bien, hier, je tombais sur un article dans la presse de la Manche. Voici un exemple de ce que fait et coûte vraiment le service public avec... Là, c'était des exemples locaux, mais ça parlera à tout le monde. Par exemple, le ticket de bus, quand vous le payez 1 euro, et ben en fait, son coût réel, c'est 6,38 €. Par exemple, la cantine, il y en a qui payent là-bas 10 centimes la cantine, alors que le coût réel, c'est 17 €. Donc voilà là où vont aussi nos impôts. Ça, c'est aussi important de le dire, Noam.
Ah oui, effectivement, parce que j'entends effectivement parler du ras-le-bol fiscal, comme vous. Alors, c'est pas nouveau, ça. Déjà en 2012, Pierre Moscovici, qui était ministre des Finances, disait qu'il y avait un ras-le-bol fiscal. Aujourd'hui, c'est lui qui, en tant que premier président de la Cour des comptes, dit qu'il faudrait peut-être augmenter les impôts parce qu'ils ont fortement baissé ces 10 dernières années. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on constate, c'est que s'il n'y avait pas d'impôts, s'il n'y avait pas de cotisations sociales, tout coûterait beaucoup plus cher. L'école, par exemple, ça coûterait combien, à votre avis? C'est des milliers d'euros, en fait, que ça coûte chaque année. Et donc, est-ce que les familles auraient un millier d'euros à mettre tous les mois, tous les ans, pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école? J'en doute. Donc là, c'est vrai que ça permet de mutualiser, faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde. Et donc, heureusement qu'on a des impôts, de la cotisation sociale, mais c'est vrai que ça devient, parfois, on a du mal à comprendre à quoi ça sert concrètement.
Aujourd'hui
est cassé.
Alors Noah, il faudrait faire quoi justement? Alors voilà, puisque vous parliez de liens cassés, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on essaie de se rabibocher avec l'impôt? Alors peut-être qu'après aussi, on est quand même d'accord que... On en paye quand même un peu beaucoup,
non? On est l'un des pays les plus imposables.
On est quand même l'un des pays les plus taxés aussi.
Oui, tout à fait. Alors la France a un taux de prélèvement obligatoire, ce qu'on appelle le taux de prélèvement obligatoire, c'est l'ensemble des impôts, des cotisations rapportés à sa richesse, qui est très important. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de services publics. C'est-à-dire que l'école, elle est gratuite dans des pays, c'est payant. La santé, elle est quasiment gratuite. En tout cas, il y a beaucoup de prises en charge par la sécurité sociale. La retraite aussi, c'est public, c'est beaucoup public. Ce n'est pas le cas. C'est un quart des dépenses publiques, c'est les dépenses de retraite. Il faut avoir ça en tête. Donc si on dit on veut baisser les dépenses publiques, c'est-à-dire qu'il faut baisser les retraites. Et je suis pas super sûr qu'aujourd'hui les Français soient d'accord pour baisser les retraites. Au contraire, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont trop faibles, pas suffisantes pour faire face aux dépenses en hausse. Donc voilà, moi je vous dis, si vous voulez baisser les impôts, les cotisations, c'est-à-dire qu'il va falloir baisser un certain nombre de dépenses, et les principales dépenses, c'est la retraite, la santé, l'éducation. Je suis pas certain qu'on ait envie de racler là-dessus, de raboter ces dépenses.
Et donc comment on fait alors pour se rabibocher avec l'impôt, Noam? Comment on peut faire le jour où on remplit notre déclaration, qu'on soit heureux, qu'on sifflote? Moi je voudrais siffloter la prochaine fois, vous comprenez?
Je suis pas certain de pouvoir vous aider à ça.
Si je sifflote bien, vous avez tort, alors faites-moi siffloter.
Je vais faire siffloter votre déclaration d'impôt. Non mais déjà, si elle était plus simple, la déclaration d'impôt, ça s'est déjà quand même pas mal simplifié, il faut le reconnaître. Il y a 20 ans, quand c'était pas pré-rempli, c'était quand même une autre prise de tête. Aujourd'hui, il y a du pré-remplissage, il y a beaucoup de choses qui sont automatiques. Non, en réalité, moi je pense surtout, ce qu'il y a besoin, c'est de l'exemplarité des responsables politiques. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de la gabegie d'argent public, parce qu'il y en a certains qui utilisent mal cet argent. Et c'est les quelques petits cas où il y a l'argent qui est mal utilisé, qui est mal employé, qui donne l'impression que c'est gâché et que notre impôt, il est pas bien utilisé. Et donc, par l'exemplarité des responsables politiques, des dirigeants, des élus, ça peut aussi aider à éviter que ce genre d'affaires aussi sorte et que ça donne l'impression que l'argent public est mal employé. Donc, on a besoin d'une très forte exemplarité. Et puis après, il y a toujours des optimisations à faire, c'est certain. Mais aujourd'hui, vous savez, la principale optimisation de dépenses, c'est de tout numériser pour baisser le nombre de fonctionnaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la frustration des personnes qui considèrent que le service public n'est pas bien rendu. Donc, baisser le nombre de fonctionnaires, ce n'est pas la bonne solution. Alors qu'aujourd'hui, on demande plus de services publics de proximité.
D'accord. Donc, comme vous disiez, voilà, de l'exemplarité. Ça serait bien qu'il y ait de l'exemplarité. Restez avec nous une petite seconde, mon cher Noam. Je vous présente Emmanuel. Ça va, Emmanuel?
Oui, très bien.
Emmanuel, Emmanuel. Là, c'est bien. On chante rarement du François Valéry, c'est dommage. Tu nous appelles d'où, Emmanuel?
De Lille.
Ah, Lille, c'est bien. Alors toi, tu voulais réagir sur les impôts, ma chère Manu?
Manu. Oui, et en fait, il n'y a pas de souci. En fait, c'est en lien avec l'intervenant là, que vous avez interviewé. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on paye et on contribue aussi à avoir des services publics qui apportent énormément à beaucoup d'entre nous. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est le manque de transparence. Je pense qu'il y a un souci dans la gestion. Et effectivement, aujourd'hui, on a l'impression de payer beaucoup, mais finalement, on n'entend que des problèmes, que des services qui ne vont pas bien. Mmh. Et donc, on se dit, ben, à quoi sert notre argent, en fait? À quoi est-ce utilisé? Et effectivement, je suis entièrement d'accord qu'il faudrait plus de transparence de nos politiques sur à quoi sert cet argent. Et on aura moins de frustration à donner de l'argent, parce qu'effectivement, ça sert pour nos enfants, ça sert pour notre santé. Donc, complètement d'accord sur le fait qu'il faut de la transparence pour une meilleure gestion.
Bon, bah, ça va dans votre sens, hein, mon cher Noam. Hein, voilà, ouais, ça va à ce que vous disiez. Bah,
merci. Je suis d'accord avec Emmanuel.
Bon, bah, bravo.
Et on s'est pas appelé à ce point.
Mais vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr que vous connaissez
pas? De la famille, non.
Noam Léandri, tu t'appelles pas Emmanuel Léandri par hasard, toi. Attention, hein. Bon. Bon, je plaisante. Emmanuel, merci d'être passé nous voir. Tu es chez toi, tu nous rappelles quand tu veux. Tu repars évidemment avec ta sélection pour.
Une semaine dans un camping pour 4 personnes avec Noam.
Avec Noam. Et Noam Léandri, merci beaucoup. Cofondateur de la.
Merci beaucoup, en tout cas.
Eh ben, je vous en prie, un couple heureux. Cofondateur de l'association Le Sens du Service Public. Merci beaucoup. Écoutez-moi bien, mes amis. Je voudrais que nous fassions. Je voudrais qu'on fasse Nicolas Malabeuf maintenant, d'accord? Si ça ne vous ennuie pas, car je fais ce que je veux, d'accord? Donc, tu mets un petit jingle, mon cher Filache, mon petit Filache. Ah voilà, merci. Voilà. Mets-moi un jingle. Ah,
avec
ça j'aime bien.
Toute sa tribu.
Voilà. Willy vient déjeuner.
C'est du direct.
Et c'est du direct. Et oui. Et on vous cache rien. Voilà. On fait tout en live.
On fait l'émission ensemble.
On fait l'émission. Moi, je suis arrivée à 12h04. Bronzée. J'étais au bord de la piscine. Je suis arrivée à 12h04. Je découvre tout. Et franchement, c'est très bien. Je suis épuisée. Vivement 13h. Alors, maintenant, Nicolas Malabeuf, notre enfant de la télé. Alors, tu veux nous parler de quoi, s'il te plaît?
Eh bien, jeudi, Anne-Sophie Lapix fera ses adieux au JT de 20h de France 2 après 8 ans de présentation. C'est Léa Salamé qui la remplacera dès la rentrée. Et donc, en ce dimanche, j'ai voulu revenir sur les précédents adieux des présentateurs de JT. C'est vrai que c'est un moment historique à chaque fois. Alors, il y a les plus connus, ceux de Patrick Poivre d'Arvor en 2008, qui avait conclu son dernier journal en citant Shakespeare et avec la formule bretonne « Adieu Vat ». 9,6 millions de téléspectateurs étaient branchés devant TF1 ce soir-là. Et alors, pour son éviction, il avait touché un joli chèque de 3,6 millions d'euros quand même.
Oh, bah ça vaut la peine de virer.
Franchement, si on nous donne le temps, je pense que ça ne sera pas le cas. Nous.
On va prendre pareil si on y virait dans une semaine ou pas, nous
3,60€, je pense. Plus ancien, toujours sur TF1, le 16 février 88, Yves Mourouzi sort de l'Élysée après une visite à François Mitterrand. Lorsqu'il reçoit un coup de fil lui annonçant qu'il est écarté du 13h, le lendemain, un communiqué est publié et le surlendemain, il fait ses adieux à l'antenne.
Deux jours après.
Directement. Et en ouverture du journal, ce sont des personnalités qui imitent son traditionnel bonjour.
Bonjour.
À commencer par Coluche.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour.
Et alors, parmi les autres voix que vous venez d'entendre, vous avez peut-être reconnu Georges Marchais, Christine Ocrinthe, Giscard et même l'abbé Pierre qui avait enregistré un bonjour pour Mourouzi.
Même lui. T'es venu avec sa gonzesse, non? T'es venu tout ça?
C'est gonzesse. Alors, encore sur TF1, 3 ans plus tard, alors un adieu moins connu que j'ai retrouvé, celui du présentateur Ladislas De Hoyos, débarqué après une seule saison au JT du week-end. Et alors, pour sa dernière, ça faisait boum.
Je vous laisse avec la météo que va vous commenter dans un instant. Catherine Laborde, ce soir, Soirée Cinéma, ça va faire boum avec Rambo, boum, boum, demain matin avec Jean-Michel Leloup dès 7h, vous aurez droit ensuite au boum Pernod, 13h, au boum PPDA, 20h, adieu, boum, et à vendredi, la boum.
Boum, boum. Alors, autre dernier JT, celui de Léon Zitrone, c'était en février 81 sur Antenne 2. Il annonce son départ, mais qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il va être apparemment encore plus présent.
Un mot personnel, très bref, avec cette édition du journal télévisé, se termine le contrat de 2 années qui me liait à Antenne 2. Contrairement à ce qu'on dit et écrit certains organes de presse, je ne quitte pas Antenne 2. Je reste y travailler pendant encore à peu près 1 an. Par exemple au sport, où dès jeudi, je vais rejoindre Jean-Marquin en Autriche pour les championnats de patinage artistique, et aussi aux en direct en Eurovision, le prochain étant le samedi 14 février à Luxembourg, le mariage du grand-duc héritier. Et s'il y avait un grand mariage à Londres bientôt, suivez mon regard, eh bien j'irai. Enfin, de temps à autre, je reviendrai ici présenter le journal télévisé, par exemple, au long week-end de Pâques ou de Pentecôte. Nous sommes donc, comme on dit dans mon quartier, gens de revue.
Bon, il s'en va pas en fait. C'était quand même une autre paire de manches, hein, Léon Zitrone. Alors on termine en 2012 sur TF1. Laurence Ferrari, sans prompteur, qui finit son dernier journal par une expression originale.
Une nouvelle histoire commence, comme j'ai coutume de dire à mes équipes lorsque nous partons en réunion. Allez, yalla.
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 Et enfin, le petit potin, eh bien, jeudi soir, après son ultime JT, Anne-Sophie Lapix organise une grosse soirée sur une péniche.
Sur une péniche, c'est vrai. Ah là là, vous êtes invité?
Eh ben non, comme d'hab.
Comme d'habitude, voilà. C'est notre loose à nous, voilà. Qu'est-ce que vous voulez. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. C'était, comme d'habitude, très bien, mais vous êtes bien les deux là. Ah, c'est bien. Non, c'est quand on n'est pas dans le même studio, moi je vous écoute plus et vrai. Je me dis c'est bien.
Mais vous êtes
bien.
Un petit peu notre modèle, donc c'est normal.
C'est vrai, un petit
et
peu.
Vous êtes très, très, très bien, vous, donc bien.
Ah là 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 là. Bon, bande de faudèches. Dans un instant, mes amis, la bonne initiative du dimanche. Ah. Est-ce que vous connaissez l'association Les Volets Ouverts?
Ah non.
Non, bah tant mieux, parce qu'on en parle juste après ça.
Ici,
Willy vient déjeuner chez vous.
Merci d'être ici, mes amis. C'est Willy vient déjeuner chez vous. On passe à table tous ensemble le samedi et le dimanche entre midi et 13h. Tiens, avant d'accueillir notre dernier invité, je voudrais vous dire des petites choses. On va rester ensemble tout l'été. Alors, pas Nicolas et Fabien, parce que les deux là, ils bossent deux jours par semaine, ils sont crevés. Donc, ils vont se barrer de moi. Ils sont épuisés. Mais moi, je vais être avec vous tout l'été. Vraiment tout l'été. Tous les samedis, on sera en direct entre midi et 13h pour ceux qui partent en vacances. Eh bien, on vous donnera des bons plans. On fera des connaissances avec des gens qui bossent pour vous pendant que vous serez en vacances à droite à gauche. Donc ça sera le samedi entre midi et 13h en direct. Et puis le dimanche, on vous proposera les meilleurs moments de Willy vient déjeuner chez vous. Car oui, c'est un miracle. On a trouvé des bons moments. Et on a cherché, on en a trouvé. Donc ça sera tous les dimanches. Voilà. Et puis si vous nous écoutez on fait la promo, hein, si vous nous écoutez sur Paris-Île-de-France ou même sur l'application ici, où que vous soyez, vous branchez sur l'application ici Paris-Île-de-France, je serai avec vous du 7 juillet au 1er août, du lundi au vendredi, entre 9h et midi. Voilà, on va faire la fête tous les jours. Voilà,
vous ne chômez pas.
Je ne chôme pas.
Et bénévolement en plus.
Ah bon? Alors, je retire tout ce que je viens de dire. Je pars la semaine prochaine. Allez, vite, ce sont les 5 dernières minutes.
Oh, oui, dépêche-toi.
Alors, vite. Alors, vite avant de partir, zoom sur une bonne initiative. Bonjour, Ariane Rigaud.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue ici. Vous êtes la présidente de l'association Les Volets Ouverts. Alors, vous êtes basée du côté de la Trinité-sur-Mer, Carnac, Quiberon, tout ça. Et alors, ici, comme dans d'autres endroits de France, chez vous, là-bas, le logement locatif manque. Contrairement aux résidences secondaires qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont surtout vides une bonne partie de l'année. Du coup, vous avez une idée, l'idée de faire quoi avec les volets ouverts, ma chère Ariane?
Mais écoutez, l'idée, c'est de réunir deux familles qui se font confiance et qui vont partager une maison. Donc, les résidences secondaires, quand ils occupent leur maison, en général, l'été.
Ouais.
Pour ceux qui ne viennent pas très souvent, ça peut être 3 semaines ou 1 mois.
Ouais.
Et donc, le reste de l'année, ça laisse une grande période pour que les actifs puissent se loger dans ces familles, effectivement, de Carnac et de la Trinité.
Donc, partager donc, cette résidence secondaire, c'est-à-dire, voilà, on va dire, 10-11 mois pour le locataire et puis 1 ou 2 mois pour le propriétaire, par exemple. Hein. Voilà, parce que il y a vraiment autant de maisons vides, autant que ça dans votre région, chez vous?
Nous, on est à 72% de résidences secondaires.
Ah ouais.
Et puis c'est vrai qu'il y avait auparavant quelques logements qui étaient alloués à l'année et qui maintenant sont plutôt passés en résidence locative saisonnière.
Voilà.
Du coup, il y a très peu d'offres.
C'est ça. Et du coup, bah, ça met le marché en tension. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se loger. C'est ça. Hein.
Absolument.
Voilà. Et donc, vous êtes chargé de faire quoi alors au sein de la SOS? Vous mettez. Vous faites quoi alors? Vous mettez en relation les gens, c'est ça?
Notre premier rôle, c'était une prise de conscience. Parce que je pense que quand on vient en vacances, on ne regarde pas forcément s'il y a des logements alloués à l'année. Donc, ça, c'était vraiment le premier objectif. Et puis, une fois qu'on a un peu communiqué sur le sujet, on a quand même eu pas mal de propriétaires qui nous ont dit « mais ça nous intéresse, nous on a envie qu'il y ait des écoles à la Trinité, des commerçants, que les gens puissent vivre, donc on est OK ». Et donc nous, à ce moment-là, en fait, on est vraiment une petite association de bénévoles. Ouais. On va rencontrer les propriétaires pour voir vraiment quelles sont leurs idées du sujet, et puis les familles qui pourraient occuper. Et quand on sent que ça pourrait matcher, on les met en relation. Et c'est eux, après, qui prennent la décision finale de s'engager ou pas.
Et donc, le locataire qui s'engage à partir quand les proprios arrivent le temps des vacances, en contrepartie d'un loyer un petit peu modéré, c'est ça?
Oui, en général, les loyers sont bien plus modérés que si c'est voilà. Si c'était un logement à louer à l'année.
Non, mais c'est une bonne idée. Hein. Franchement, c'est une bonne idée parce que, comme vous le dites, c'est vrai que voilà, l'association s'appelle les volets ouverts parce que justement, un village ou une petite ville avec plein de volets fermés, bah c'est triste, quoi. Voilà, c'est un village qui se meurt, qui vit pas le reste de l'année, quoi.
Exactement.
Voilà. Oh. Et vous existez, je crois, depuis 3 ans. C'est quoi le bilan? Je crois que c'est pas mal, hein. Je crois que vous avez un bon bilan, ma chère Ariane. Allez-y.
Vous êtes sympa, merci.
Mais je vous en prie.
L'association aura bientôt 3 ans et on a logé 35 familles.
Et 35 familles, voilà, il y a 35 maisons qui restent les volets ouverts le reste de l'année. Bah, c'est une super idée, voilà, je voulais qu'on en parle, que le monde entier vous écoute, ma chère Ariane, parce que peut-être que ça va donner des idées à droite à gauche. Merci infiniment d'être passée nous voir, Ariane Rigaud, présidente de l'association, donc les volets ouverts, vous avez compris comment ça fonctionne, hein. Le locataire reste, on va dire 11 mois, et puis quand les proprios arrivent le temps des vacances dans leur résidence secondaire, ils partent, et puis le locataire paye un loyer modéré le reste de l'année. Franchement, c'est une super idée. Bravo, merci infiniment, ma chère Ariane, passez un bon dimanche.
Merci à vous, bon dimanche, au revoir.
Ici, chaque week-end,
Willy vient déjeuner chez vous.
C'est mon moment préféré de l'émission, c'est le jeu.
C'est le tirage.
C'est le tirage. Le grand tirage.
C'est le tirage de la semaine. Vous étiez très, très nombreux à vous sélectionner. Ça sonne déjà. Ça sonne vite. Hein. Là, ça sonne.
C'est dingue.
Très, très jolie sonnerie.
Allô.
Ah oui, allô. Est-ce que c'est Ludovic?
Oui.
Ah, c'est bon. Déjà, ça démarre bien. Ludovic, où? Tu es où? Tu es quelle ville? Quel pays?
Après, en paille.
C'est à côté.
En Mayenne.
En Mayenne, très bien, la Mayenne, très bien. En Mayenne. Et là, t'es à la maison, à la Mayenne, ou t'es où? T'es là maintenant, là?
Là, je suis un pique-nique pour l'US, le foot de la commune de Prampaille.
Sympa.
Ah, bah, c'est vachement bien, ça. Donc, il y a combien de personnes autour de toi, par exemple, à vue de nez?
On est 45.
Ah oui, 45. Alors, tu sais ce que tu vas faire?
Je suis mis un peu à l'écart.
Non, justement, non. Tu vas refaire demi-tour tout de suite, mon cher Ludovic. Je veux que l'air de rien. Je suis sûre que tu dois être en short avec un petit t-shirt, là, non? C'est ça? T'as des très jolis mollets, hein, Ludovic. Waouh!
Wow.
Tu fais du vélo, non? Tu fais du vélo? T'as des beaux mollets. C'est des beaux mollets. Alors, je veux que t'ailles l'air de rien. Tu sais, tu marches un peu comme Aldo Machon, comme ça, tu sais, un peu en
traînant.
Sur la plage, comme ça. Et l'air de rien, je veux que tu reviennes au milieu du groupe, comme ça. Mais l'air de rien, tu sais, tu sifflotes un peu. Tu sais, comme ça. Et tout à coup, mon cher Ludovic, je veux que tu te mettes à hurler « Ici !» tout fort comme ça, vas-y.
Bon, on va m'aider alors, faut qu'on crie vas-y. Tous « Ici Mayenne ».
Allez, vas-y.
Allez, on est parti. « Ici Mayenne !»
Bravo, bravo. C'est gagné là.
Vous avez commencé l'apéro il y a combien de jours, Ludovic?
Non, on a commencé il y a 10 minutes.
10 minutes. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur la nappe? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des nappes à carreaux?
Déjà, ce qu'il y a à manger.
Oui, qu'est-ce qu'il y a dessus?
Des nappes à carreaux, c'est des nappes blanches, tout ça. On a fait tout ce qu'il y avait dessus.
D'accord. Et il y a quoi, par exemple? Il y a des curlis.
Il y a des curlis, il y a des chips, il y a du kir, il y a des bières.
J'arrive.
Ah, mais j'adore, c'est bien. Moi, j'en fais pas assez des pique-niques, c'est vachement bien. Bon, écoute, bravo Ludovic. Donc, c'est quoi? C'est pour une assoce, j'ai pas compris. Sportive.
Alors, c'est pour l'Union sportive, le club de foot de la commune, Prampaille.
Bravo. Tu viens de remporter donc une semaine pour 4. Tu as 3 personnes que tu aimes bien autour de toi, dans ta famille.
Ma femme et mes 2 enfants.
Tu les aimes? Tu les aimes vraiment? Bon.
Oui.
Tu seras obligé de partir avec eux dans un camping haut de gamme Sunelia. Tu verras, tu vas passer une très très belle semaine en famille. Merci Ludovic pour ta fidélité.
Merci vraiment beaucoup.
Merci infiniment et on embrasse ici Mayenne, du coup, puisque tu nous écoutes via ici Mayenne. Merci Ludovic, prends bien soin de toi et passe un bon dimanche. À très bientôt Ludovic. Et ben voilà mes amis, c'est fini.
Oh non,
la barbichette, ça passe à une vitesse. Merci infiniment ici Provence, à Aix-en-Provence pour votre accueil. C'est toujours un bonheur de venir vous voir. Normalement, si tout va bien, le week-end prochain, je monte à la maison de la radio pour être auprès de vous, Nicolas et Fabien. On verra, je peux encore changer d'avis. Et puis sinon, vous n'oubliez pas qu'on se retrouve tout l'été. On reste ensemble tout l'été, mes amis, le samedi et le dimanche.
Ici. ICI. Vous écoutez ICI.
Votre radio locale France Bleu devient ICI.
ICI, parce que c'est la radio qui parle d'ICI, de mes voisins, de ma région.
ICI, c'est mon village, c'est ma vie quotidienne.
ICI.
Ici, une radio qui vit à vos côtés jour après jour.
Quand j'écoute ici, au moins je sais où je suis.
Vous écoutez ici.
Ici, le média qui vit comme nous.
Comme nous.
Ici.
Vous vous souvenez de Boris ? Il adore l'été parce qu'il adore le soleil. Il adore les maillots de bain. Il adore le camping et surtout, il adore les soirées disco. Alors tous les soirs, Boris, il écoute sa radio locale ici.
Et c'est parti pour la bamboche.
Camping, musique et bonne humeur, c'est l'émission préférée.